Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de talk show. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va avoir un invité qu'on aime beaucoup, 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 puisqu'il s'agit de Francis Letellier, le présentateur de Dimanche en politique sur France 3. Bonjour Francis Letellier.
Bonjour Jean, comment allez-vous ?
Très heureux de vous avoir comme à chaque fois.
Merci d'être fidèle à notre rendez-vous quasi-annuel.
Exactement, exactement. Vous êtes journaliste, présentateur de Dimanche en politique. Vous n'avez que ce rendez-vous durant cette année à la télévision ?
Alors non, depuis septembre, j'anime aussi lundi c'est politique sur LCP, c'est tous les lundis à 19h30 sur LCP.
La chaîne parlementaire.
C'est une émission d'une heure, et là c'est un autre exercice, c'est un exercice de bande un petit peu, où j'anime une bande d'éditorialistes avec France Info, Challenge, LCP, j'ai plusieurs journalistes sur le plateau pour interroger un invité pendant une heure.
Alors, dimanche en politique, c'est tout le dimanche, à midi à peu près, c'est un horaire qui
Alors, il y a une première partie 11h40 midi,
oui.
Et une deuxième partie midi, midi et demi, c'est la même émission si vous voulez, mais j'ai deux invités. Pourquoi deux invités ? Parce que ça permet d'abord de faire passer plus de gens, et puis, par ailleurs, comme Dimanche en politique est une émission nationale, et c'est désormais la seule sur France 3, émission nationale d'information, j'ai comme responsabilité d'équilibrer les temps de parole entre les différents partis politiques et différentes tendances. Et par conséquent, c'est à moi que revient l'obligation de recevoir plusieurs invités chaque dimanche pour équilibrer les temps de parole.
C'est un timing qui vous convient, enfin c'est le dimanche, les gens sont peut-être un peu moins à la maison en fin de matinée. Ça vous pose problème, vous, au niveau de la présentation ?
Non, pas du tout, parce qu'il y a une habitude historique d'émissions politiques le dimanche midi. Vous vous souvenez peut-être, autrefois, il y avait l'heure de vérité sur la 2, c'était le dimanche midi par exemple, et puis je me souviens qu'il y a quelques années, il y a des concurrents qui ont essayé d'installer une émission politique sur M6 par exemple, ça avait moins bien marché, mais je vois en revanche que les concurrents de chaînes d'info ont tous mis un rendez-vous politique le dimanche midi, ce qui n'existait pas il y a quelques années, parce qu'ils se sont aperçus que, bah justement, il y avait deux choses. D'abord, une habitude à suivre des émissions politiques le dimanche midi, comme je vous le disais. Et puis deuxièmement, il y a un côté le dimanche où on est un peu, c'est un peu le quotidien du septième jour, quelque chose comme ça. Et puis regardez, il y a plein de journaux le dimanche, JDD, Tribune, tout ça, qui crée, j'allais dire, une ambiance du dimanche. Ben, ça fait partie de cette ambiance du dimanche, dimanche en politique en fait.
Contrairement au mois dernier, la scène politique est un peu, on va dire, moins vive, ça se commence un peu à se calmer. Est-ce que c'est plus difficile ?
Je vous trouve optimiste.
Hein ?
Je vous trouve optimiste.
Oui, ben, c'est des premières questions. Est-ce que les thèmes sont plus difficiles à trouver, ou vous arrivez à avoir assez de matériel pour monter une émission ?
Ah non, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous regardez les chaînes d'infos, vous avez l'impression qu'effectivement, l'actualité politique a un peu baissé parce qu'il n'y a plus les motions de censure, il n'y a plus tout ça. Mais en fait, je m'aperçois que sur les sujets, c'est énorme. Entre la réforme des retraites qui est remise en discussion, ce qui se passe à l'international, que ce soit l'Ukraine ou le Proche-Orient, par exemple, parce que nous, on parle de tout ça. Que ce soit l'affaire Betterame, on en parle pas mal. Enfin, il y a plein de choses. Et puis surtout, il y a quelque chose que tous les politiques ont en tête, c'est combien de temps va durer le gouvernement Bayrou. À tout moment, il est possible qu'il ait une motion de censure qui le fasse tomber. Tout le monde a ça en tête. Tout le monde, les ministres, je vois bien, moi, les cabinets des ministres, ils sont comme sur un fil, en disant, dans deux mois, est-ce qu'on est encore là ? Et d'ailleurs, ils ne programment pas forcément des émissions longtemps à l'avance, parce qu'ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait, quoi.
Alors justement, les invités, ils viennent plus facilement en période électorale qu'en période non électorale, ou c'est équivalent ?
C'est vrai qu'en période électorale, ils voudraient être, j'allais dire, tous les jours à la télé. Bon, c'est pas possible, bien évidemment. Donc quand c'est en période moins électorale, évidemment, il y a moins de pression de ce point de vue. Mais là, pour le coup, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, les rendez-vous dominicaux, ça reste une marque, ça reste un passage obligé, comme des matinales, si vous voulez. Mais les rendez-vous dominicaux, ça a encore un autre statut. Passer dans une émission du dimanche, c'est quelque chose d'important. Et puis, Là, par exemple, il va y avoir dans les semaines qui viennent plusieurs congrès de partis politiques, celui des écolos, celui du PS, celui des républicains. Donc il y a une bataille interne qui va faire qu'il y a plein de gens qui vont vouloir parler dans le poste. Hein.
Alors, dimanche en politique, l'émission, on l'a dit, le dimanche, ça se prépare combien de temps à l'avance? Là, on est mercredi, vous pouvez nous dire ce qui va se passer dimanche? Ou pas encore?
Alors oui, parce que mercredi, par exemple, ça commence à s'exciter un petit peu dans tous les sens, parce que d'abord, les politiques, ils organisent aussi leur week-end. Hein, parce
évidemment.
Aussi des obligations de terrain. Ils sont souvent élus de terrain, donc ils doivent s'organiser entre le samedi et le dimanche. Ils sont pas tous parisiens, loin de là. Donc évidemment, dès le mercredi, ça commence à se mettre en place. Alors parfois, on a des invités calés un petit peu plus longtemps à l'avance, mais sinon, ça commence à se mettre en place dès le mercredi. Et ce dimanche, par exemple, ça vient de tomber, parce que vous m'auriez appelé tout à l'heure, j'aurais pas pu vous dire, maintenant je sais. Ah. À 11h40, je recevrai Fabien Roussel, numéro 1 du PC, et à midi, je recevrai Aurore Berger, ministre de l'égalité homme-femme, à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes.
Alors, on parle de cette émission. Quand les politiques viennent, vous les voyez avant, maquillage, vous leur parlez, vous leur voyez les thèmes à l'avance, les questions à l'avance, ou c'est pas votre style?
Il y a deux choses. Quand on est le vendredi ou le samedi, par exemple, les équipes qui sont autour des invités, nous appellent pour savoir en gros quels seront les thèmes, un peu le sommaire, si vous voulez. Bon, ça, le sommaire, on leur donne, il n'y a aucun problème là-dessus, voilà, on va parler de ça, ça, ça. Mais une fois qu'on a dit qu'on va parler de ça, ils ne connaissent pas mes questions, la façon dont je vais poser la question, et moi, en direct, je ne sais pas ce qu'ils vont me répondre non plus, et donc ça peut susciter des relances que moi-même, je n'avais pas prévues une minute avant. Et puis, avant la prise d'antenne, je les vois au maquillage, ou 5 minutes avant dans le salon d'attente, pour parler avec eux, pour dire tiens, voilà, vous en êtes où, voilà, voir un peu aussi dans quel état d'esprit ils sont, quelle humeur aussi, parce que c'est des gens qui ont des fois des hauts et des bas. Et donc, en fonction, ça me permet aussi de voir où ils en sont eux-mêmes. Et ça, c'est intéressant.
Alors, question un peu.
J'allais dire.
Oui, question un peu personnelle. Il y en a que vous aimez plus que d'autres?
Moi, ceux que j'aime le plus, c'est les gens qui sont cash, qui sont directs. Et ouais. On a des surprises. Je vais vous donner une surprise. Dimanche dernier, j'avais la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui n'est pas quand même la plus connue. Or, cette dame, elle a un long parcours de sénatrice, elle est les Républicains, et quand elle répond aux questions, elle répond franchement, avec des phrases, sujet, verbe, complément que tout le monde comprend, et elle répond franchement. Et bien, je peux vous assurer que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un en face de vous qui répond à vos questions. Alors ça, c'est des invités que j'adore, parce que non pas que parce qu'ils se plient à mon plan de questions, mais parce qu'au moins la conversation et l'échange est intéressant. C'est pas des gens qui essaient de contourner le truc. Et ça, c'est forcément génial à chaque fois, quoi.
Alors, dans cette émission aussi, vous avez l'intervention de certains éditorialistes. Comment vous les choisissez?
Alors, d'abord, on est très fidèles. Par exemple, nous avons Nathalie Moret, qui est journaliste politique dans les journaux du groupe EBRA. C'est pour chez vous, DNA et l'Alsace, par exemple. Elle est chez nous depuis 10 ans. C'est-à-dire que on les a repérés sur un plateau, comme ça. Je les ai vus à l'antenne et tout. Mmh. On se rencontre et on se dit, tiens, ça serait pas mal si tu venais chez nous et tout. Puis après, bon, il y a un exercice qui est celui de l'interview, qui est quand même pas très simple. Donc, au début, des fois, ça flotte un peu. Puis après, avec l'expérience, ça vient bien. Et comment je les choisis? D'abord, avec des gens qui ont une personnalité et aussi des gens dont les médias ne sont pas engagés ailleurs. Je m'explique. On pourrait avoir des gens du Figaro, on pourrait avoir des gens des Échos ou je ne sais quoi, parce qu'on a eu à une époque. Le problème, c'est que le Figaro et les Échos, ils sont en partenariat avec des émissions concurrentes de chez nous. Donc, on ne va pas prendre quelqu'un qui est en concurrence avec nous, parce qu'il faut avoir le beurre et l'argent du beurre.
Voilà.
Donc il y a deux critères. Un, être quelqu'un qui a des choses à dire, et deux, être dans un média qui n'est pas en concurrence avec nous. Donc en l'occurrence, Nathalie Moret d'Ebra, ou bien Olivier Perroux de l'Express, tous ces gens-là, leur journal n'est pas engagé ailleurs.
Vous avez une liberté totale dans le choix éditorial, le choix des invités, ou vous avez des obligations autre que votre envie et votre demande?
L'obligation, c'est l'ARCOM. C'est-à-dire que on donne le relevé, enfin c'est eux qui font les relevés de temps de parole en fonction du poids de tel ou tel parti politique. Et c'est ça notre obligation. C'est-à-dire que, par exemple, on sait...
Mais dans les choix éditoriaux, de celles des questions, ou en tout cas, que vous allez aborder...
C'est vraiment personnel, quasiment, quoi. C'est-à-dire que quand je pose les questions, c'est vraiment les questions que je veux poser, et à moi aussi de prendre le risque de les poser ou de ne pas les poser. Je prends mon risque, comme on dit.
D'accord. Alors, on va faire, Francis Letellier, une courte pause musicale, et on se retrouve dans un instant.
Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Hein? À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein? Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents.
Notre invité aujourd'hui, Francis Letellier, journaliste présentateur de France 3 en politique le dimanche sur la troisième chaîne de télévision. Alors, on a évidemment beaucoup de thèmes à voir avec vous et des questions qu'on voulait vous poser concernant justement ce gouvernement Bayrou. Vous disiez avant la pause qu'effectivement c'était sur un fil. Qu'est-ce qui pourrait le faire tomber ?
Une motion de censure.
Oui.
Alors pour l'instant, il a échappé à toutes les motions de censure, mais tout est possible à tout moment. Il y a notamment là, ce qui va se passer sur la réforme des retraites, les discussions qui sont en cours. Si ça tourne mal, ça peut très bien être l'occasion, par exemple pour la gauche, rejointe avec le RN, de prendre une revanche là-dessus. Surtout à l'approche de juin-juillet, puisque c'est en juillet que peut être dissoute l'Assemblée nationale, pas avant. Donc plus on va s'approcher de cette date, plus le risque est important.
Ça veut dire que, malgré ce que disent beaucoup de Français, qui n'aiment pas beaucoup les motions de censure, les partis pourraient passer outre le choix des Français ?
Oui, c'est votre analyse. Moi, je ne sais pas si les Français n'aiment pas ou aiment les motions de censure, parce qu'effectivement, dans leur vie quotidienne, il faut bien qu'ils continuent à travailler tous les jours sans tenir compte des aléas de la vie politique, ça, on est bien d'accord. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y ait une adhésion énorme au gouvernement actuel. Donc, voir un gouvernement tomber, je sais pas si ça les rendra tristes. En revanche, ça les rendra inquiets pour leur quotidien.
Ça bloque, ça bloque beaucoup de choses, quand même.
Voilà, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que pour la vie quotidienne, c'est pas facile. Par contre, politiquement, je pense que bon, ils vont pas descendre dans la rue pour dire il faut que Bayrou reste premier ministre.
D'accord. Justement, on parle de Emmanuel Macron, président un peu essoufflé, dit-on. C'est vrai ou c'est des...
J'ai pas compris. Le président
Macron esselé ou pas?
Effectivement, le gouvernement avec un Premier ministre qui vient du Modem, qui est le plus petit parti politique de la coalition, présidentielle, bon, évidemment, c'est pas facile. Et puis François Bayrou, il a de l'expérience, donc à tout moment, il peut lui dire « t'es bien gentil, mais j'ai fait de la politique avant toi ». Ça, c'est clair, il peut le faire. Bon. Et puis, encore une fois, un Premier ministre ne peut quitter Matignon que s'il démissionne. Un président de la République ne peut pas démissionner un Premier ministre. Donc, ça, il faut le rappeler quand même, c'est important.
Donc, vous estimez que Macron va rester jusqu'à en 2027, quoi. Il n'est pas question qu'il s'en aille avant.
J'en sais rien, à moins d'un coup politique, qui est de dire « je démissionne avant la fin de mon mandat » pour éventuellement espérer me représenter plus tard. En politique, tout est tellement possible que le premier qui vous dit à coup sûr c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça, soit invente des choses, soit ment. Mais c'est pas possible en politique de dire ce qui va se passer. Hein.
J'ai encore quelques petites questions importantes. D'abord, on peut dire que l'UNFP est mort entre LFI et le PS, le torchon brûle. On peut dire que c'est fini et qu'ils reviendront peut-être. Ou pas du tout.
Alors voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a les deux. C'est-à-dire que au moment de la NUPES, c'était pareil. Ils se sont tapés dessus dès qu'ils ont plu, en gros. Et puis quand il a fallu se présenter aux élections, en 48 heures, ça a été fait. Parce que s'ils ne sont pas unis, ils tombent tous. Donc comme ils n'ont pas envie de tomber, ben, ils ont intérêt à s'unir. Donc ok, il y a des petites bisbilles, bon ok, mais s'il y avait des élections anticipées, je mets ma main à couper.
Ben, quand même pas.
Hop, ce serait reparti comme en 14. Hein.
Quand même pas. Alors il y a un sujet dont je voulais parler avec vous, et je sais que vous aimez bien ça. Il y a un sujet que vous aimez énormément, je le sais, c'est parler des États-Unis et de Donald Trump. Donald Trump réélu, d'abord ça c'est déjà un sacré pari. Comment vous voyez son arrivée pour les répercussions en France et dans le monde en général ?
Alors les répercussions en France déjà sur son élection déjà.
Ouais.
Parce qu'en France, quand vous écoutiez les éditorialistes, les savants qui pensent tout savoir avant tout le monde, il ne pouvait pas être réélu. Moi j'avais dit hein, dans mon équipe, ce sera lui qui sera réélu. Parce que j'étais allé aux États-Unis cet été et au vu de la tension dans la société américaine, j'imaginais que ça. Bon. Mais bon, tant mieux, j'ai eu raison, j'ai gagné mon pari, donc vous êtes plutôt sympathique, mais au-delà de ça. Maintenant, je ne suis pas retourné aux États-Unis depuis, j'ai hâte d'y retourner pour voir ce que ça donne. Par contre, sur les retombées en France, c'est vrai que certains n'attendaient que ça, visiblement, pour que certains sujets tabous reviennent sur le devant de la scène. Mais au-delà de ça, je pense que ça va permettre aussi de dire que les États-Unis, c'est un allié, mais c'est un allié qui est un empire. On a oublié que les États-Unis étaient un empire et que, à part eux, rien ne compte dans le monde. Bah là, on le redécouvre. Alors, moi, je pense que ça peut avoir des répercussions beaucoup plus loin que la politique encore, même des répercussions culturelles. C'est-à-dire que les États-Unis, qu'on voyait comme un modèle culturel pour la musique, le cinéma, les séries, etc., les Français vont peut-être changer de regard un petit peu. Je ne sais pas, je me pose la question, on verra, mais c'est possible.
Alors, dernière question, évidemment, qui pour nous nous intéresse un peu plus que l'arrivée de Trump, c'est ce qui se passe en Israël. On a vu que la semaine dernière, il y a eu évidemment le retour des otages enfants dans un cercueil. Vous, quelle est votre analyse sur ce qui se passe en ce moment en Israël ?
Bah déjà, des enfants qui viennent dans un cercueil, rien que d'en parler, franchement, ça me noue la gorge. Voilà, ça c'est une chose, mais au-delà de l'émotion, je trouve quand même que c'est très fort, cette trêve. Qui aurait imaginé, là pour le coup, pour paraphraser Emmanuel Macron quand on disait qu'il aurait imaginé, qui aurait imaginé il y a 6 mois qu'une trêve aurait été possible entre Israël et le Hamas ? Moi je trouve que là, il y a quelque chose de fort. De côté, j'allais dire, quoi. Parce que cette trêve, personne ne l'aurait imaginé, mais vraiment, quoi. Israël était parti pour libérer les otages. Mais il n'était pas question de trêve à l'époque. Là, les libérations se font à travers une trêve. Et je trouve que ça peut être un sujet d'espoir, quoi. Bon, je suis peut-être trop optimiste, c'est certainement trop optimiste, mais bon, ça peut être un sujet d'espoir pour dire, on va peut-être arriver enfin à quelque chose qui soit un peu plus pacifique, entre guillemets, parce que, on est bien d'accord. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça percute la vie politique française, vous l'avez bien vu, hein, ces deux dernières années, enfin cette année et demie, et surtout, ça permet aussi de montrer que l'antisémitisme en France est toujours là, ça, voilà.
Pour le coup, oui.
Mais qu'il n'est pas toujours du côté où on croit. Et moi, je pense réellement, franchement, je le vois, il y a un antisémitisme un peu sournois, qui n'est pas exprimé, mais qui est sournois, qui est culturel en France, qui vient de l'anti-judaïsme, qui est plus culturel et cultuel. Et ça, il existe. Et je pense qu'il ne faut pas le méconnaître.
Bah, de qui ?
On n'en parle pas, parce qu'on parle...
Vous parlez de qui ?
D'autres antisémitismes.
Vous parlez de qui ? Vous parlez de qui ?
Bah, par exemple, on parle de l'antisémitisme qu'il y aurait à LFI, par exemple.
Ouais.
Quand je parle d'antisémitisme caché ?
Oui.
Oui, bah, très clairement. Moi, j'entends dans la rue cette espèce d'humour... sur les juifs, peut-être que vous pouvez l'entendre, sur les clichés, les a priori, je peux vous assurer que ces clichés, ces a priori existent toujours et qu'on les entend encore s'exprimer, et que ça vient pas forcément de la gauche, hein. Ça vient D'accord. parfois de milieux, même culturellement catholiques, disons les choses, quoi. Mmh. Je dis les choses, parce que il y a toujours cette méfiance, c'est pas forcément une haine, mais une méfiance par rapport aux juifs,
D'accord.
chez les catholiques, et ça, ça existe.
D'accord. Donc vous, vous voyez dans ces libérations de...
Je n'ai pas convaincu, mais je vous le dis, je le sens.
Non, non, d'accord. Mais c'est bien de le dire franchement et clairement. Donc sur ce qui se passe en Israël, pour vous, c'est plutôt de l'espoir.
Non, j'espère espérer, si vous voulez.
Oui.
Je ne crois pas trop. Mais
d'accord.
J'espère espérer en disant, bon, les otages vont être libérés le plus vite possible. Espérons, et vivants, espérons, même si on sait que beaucoup sont morts déjà.
Oui.
Mais vraiment, je me mets à la place des familles, c'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est terrible, terrible, quoi. Puis l'histoire des enfants, c'est... Bon, bref, c'est horrible, quoi. C'est horrible.
Alors, on va clore cette émission. Vous avez des projets l'année prochaine ? Il y a des choses qu'on peut annoncer ou pas encore ?
Alors, les projets l'année prochaine, c'est encore un petit peu tôt, là, à l'époque de l'année, là. Regardez, par exemple, sur mon rendez-vous de LCP, dont je vous parlais en septembre, mmh. ça a été décidé fin août, vous voyez, ah. ce genre de choses. Et je
par, pense par exemple, il y a une chaîne qui ferme après-demain.
Le paysage de la prochaine présidentielle qui va se mettre en rond. C'est 8, vous voulez dire.
Ouais, oui, oui.
C'est ça que vous voulez dire.
Oui, je parlais de ça, évidemment.
Oui, bon, ben, c'est pas là que j'irai travailler, puisqu'il n'y aura plus. mais tout simplement pour dire que tout va vite. Vous savez que dans le service public, dans le budget actuel, il y a 100 millions d'économies à faire en plus déjà par rapport aux économies qui ont déjà été faites. Donc tout ça, on ne sait pas où ça va atterrir. Hein.
D'accord. Donc dimanche en politique, ça va rester quand même, avant les élections présidentielles. Ou législatives,
écoutez,
en tout cas.
D'abord, oui, avant une élection présidentielle, ça serait un drôle de signal. Ça serait un drôle de signal. Et puis, économiquement, on coûte vraiment pas cher. On a une petite équipe de 4 personnes. On est vraiment pas cher, quoi. Ouais. Mais bon, franchement, il n'y a pas de... je ne parle pas de moi quand je dis ça. Je suis plutôt inquiet pour d'autres émissions qui coûtent cher, etc. Il peut, 100 millions, il va falloir trouver quelque chose
ouais.
pour faire des économies, quoi,
c'est
100
clair.
Millions.
Francis Letellier, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions, toujours avec plaisir avec Francis. On vous retrouve donc dimanche à partir de 11h40 sur France 3.
Toujours.
Merci beaucoup.
Parce que c'est vous, Jean.
Merci à vous.